On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Camille enquête. Le mystère des raisins Barbapapa. Un texte de Camille Lopez, paru le 29 mars 2025 dans Les As de l'Info. Ces temps-ci, sur les réseaux sociaux, on me suggère souvent des vidéos de gens qui goûtent à des nouvelles saveurs de raisins. La grappe de l'heure, des raisins Barbapapa. Et, à en croire les réactions, le fruit a réellement une saveur de friandise, ce qui me rend très curieuse. Comment ça se peut? Est-ce qu'un scientifique fou expert des fruits injecte chaque petit raisin avec de la Barbapapa? Est-ce naturel? Je dois absolument le savoir. Alors, j'ai mis mon chapeau de détective des fruits et j'ai mené mon enquête. Agrappe-toi bien. Voici ma raisinvestigation. Un raisin nouveau genre. La première étape de mon enquête. Rencontrer le raisin. Je me rends donc à l'épicerie. Les raisins Barbapapa, cotton candy en anglais, m'attendent au rayon des fruits. Voici ce que je remarque. La grappe est environ deux fois plus chère que le raisin vert ordinaire. Sur l'emballage, je peux lire « sans OGM ». Ça veut dire, en termes très simples, que personne n'a transformé le code génétique, ce qui fait qu'un raisin est un raisin, du fruit. Mais alors, comment ça marche? À ce que je sache, de la Barbapapa, ça ne pousse pas dans la nature. Cousin raisin. De retour chez moi, avec un sac de raisin Barbapapa, je continue mes recherches en ligne. Sur l'emballage, je trouve rapidement le nom de la compagnie qui les distribue. Divine Flavor. Je me rends sur le site internet de Divine Flavor, où je découvre avec surprise toute une famille de raisins en folie. Non seulement il y a du raisin Barbapapa, mais je découvre aussi ses cousins. Le raisin Jelly, ça veut dire confiture en anglais, et gommé, jujube. Ça ne fait que me rendre encore plus curieuse. Alors, je fais ce que toute bonne journaliste fait quand elle a soif de réponse, je vais à la source. Dring, dring, c'est l'heure d'un appel. Des labos, des fermes et des épiceries. C'est Michael Dupuis, porte-parole de Divine Flavor, qui me répond. Il m'apprend que la compagnie est basée en Arizona, aux États-Unis. Les raisins, eux, poussent au Mexique pendant l'été et au Pérou et au Chili pendant l'hiver. Pourquoi? Parce que ces deux pays sont situés dans l'hémisphère sud. Pendant notre hiver, c'est leur été et il fait chaud. Et la chaleur, c'est un ingrédient très important pour faire pousser un bon raisin. Au fil de notre discussion, Michael me fait découvrir un monde dont j'ignorais l'existence, celui des hybrideurs de fruits, des gens dont le travail est de créer de nouvelles espèces de raisins. Ces producteurs font beaucoup d'expériences. Ils peuvent créer des milliers de variétés, mais elles ne finissent pas toutes en épicerie. Ils ne sélectionnent que celles qui goûtent bon et qui poussent et se conservent bien, m'explique-t-il. Dans leur labo, les hybrideurs prennent le pollen produit par une plante et ils l'utilisent pour en polliniser une autre. Ça crée un bébé raisin qui a des traits de ses deux parents. S'il est prometteur, on le transplante dans une pouponnière pour plantes où il sera reproduit et peut-être croisé à son tour avec une autre espèce. Lorsqu'un raisin est un succès, il est confié à des fermiers qui font pousser les vignes et les cultivent. Mais la barbe à papa, elle vient d'où? Michael le confirme. Il n'y a pas réellement de barbe à papa ou de confiture ou de jujube dans les raisins qui m'intéressent. Il m'explique que ce qui donne cette impression, c'est la texture, la couleur et la quantité de sucre du fruit. Et ces trois critères, les hybrideurs les contrôlent en choisissant quelles espèces accoupler. Par exemple, plus un raisin a chaud et plus il pousse longtemps, plus il est sucré. Une mission réussie pour détective Camille. J'ai maintenant réponse à toutes mes questions. Même si j'aimais beaucoup m'imaginer un savant fou des fruits, ma recherche m'a démontré que les choses ne se passaient pas tout à fait comme ça. Cette enquête m'a aussi permis de découvrir un métier dont j'ignorais tout. Hybrideur. D'ailleurs, ça m'a donné une idée. La pomme abricot. Amusons-nous un peu. Inspiré par cette enquête, je me suis demandé quel serait mon fruit de rêve. Il me fait plaisir de te présenter la pomme abricot. J'adore croquer dans les pommes et j'aime beaucoup le goût de l'abricot, mais je déteste sa texture. Leur bébé, me semble-t-il, serait le fruit parfait pour moi. Mais bon, il va falloir que je me trouve un labo, une ferme et quelqu'un qui s'y connaît. Et toi, si tu pouvais créer un nouveau fruit ou en mélanger deux, à quoi ressemblerait-il et que goûterait-il? Les ordures et le climat, une histoire qui pue. Un texte d'Ophélie Delaunay, paru le 27 mars 2025 dans les As de l'Info. Le 30 mars, c'était la journée internationale du zéro déchet. Quelle magnifique occasion de parler de poubelles et de leur gaz. Quoi? Nos déchets font des pets? Eh bien, un peu, oui. En plus de puer, ils produisent des gaz à effet de serre très puissants qui réchauffent la planète. Pas besoin de te boucher le nez pour lire ce texte. Une vague puante de déchets. Au Canada, on s'y connaît en déchets. On produit environ 700 kilos d'ordures par année par habitant, dont environ la moitié rien qu'à la maison. Ça représente 70 grands sacs poubelles bien remplis par personne. C'est bien plus que dans la plupart des autres pays. Heureusement, nos déchets sont ramassés régulièrement. Une fois au bac, les éboueurs les transportent dans différents lieux où ils sont recyclés, compostés, brûlés ou enfouis sous la terre. Les déchets alimentaires des usines à gaz. Parmi les tonnes de déchets déposés chaque jour dans les sites d'enfouissement, il y a des restes de tables, plures de fruits, légumes, viande, riz. Quand ils sont enterrés, ces déchets organiques sont digérés par des bactéries. Tout ça dégage de mauvaises odeurs et des gaz, comme le méthane. Ce gaz, c'est un gros problème. Parce que ça pue, oui, mais surtout parce que le méthane est un gaz à effet de serre très puissant. Il réchauffe l'air environ 30 fois plus que le CO2. Imagine que le CO2 est comme un feu de camp qui réchauffe la terre progressivement. Le méthane, lui, c'est comme un lance-flamme. Il chauffe beaucoup plus vite et fort. Transformer un problème en solution. Dans certains sites d'enfouissement du Québec, le méthane produit par les déchets enterrés est capté dans des tuyaux et envoyé dans une usine. Le méthane y est nettoyé et transformé en biométhane. Ce gaz plus propre est ensuite utilisé pour chauffer des maisons, produire de l'électricité ou faire rouler des camions. Moins de déchets, c'est mieux. Récupérer le méthane produit par nos ordures, c'est bien. Mais produire moins de déchets, c'est encore mieux. Pour ça, on peut essayer de moins gaspiller la nourriture, par exemple. Malgré ça, il restera toujours des déchets. On ne va quand même pas manger nos os de poulet. Alors, c'est important de bien trier et de déposer tous les restes de nourriture dans le bac brun. On peut aussi faire son propre compost, mais alors, il faut le mélanger souvent pour ne pas qu'il produise du méthane. Expérience, fabrique ton propre gaz de fruits. Les déchets organiques dégagent des gaz quand ils se décomposent. Voici une petite expérience simple et sécuritaire qui te permettra d'observer ce phénomène. Matériel, une bouteille en plastique, une peau de banane, de l'eau tiède, une cuillère de sucre, un ballon gonflable. Étape 1. Coupe la peau de banane en petits morceaux et mets-les dans la bouteille. 2. Ajoute un peu d'eau tiède et une cuillère de sucre. 3. Fixe le ballon sur le goulot de la bouteille et laisse le tout sur le comptoir pendant quelques jours. 4. Observe. Le ballon se gonfle doucement avec le gaz produit par la décomposition de la peau de banane. Tu peux aussi faire cette expérience avec différents déchets organiques et comparer la vitesse de production de gaz. Fais-tu du compost à la maison et à l'école? Laïcité à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire? Un texte de Gilles Abel, paru le 31 mars 2025 dans Les As de l'Info. Tu as peut-être entendu parler de laïcité ces derniers temps, surtout à propos des écoles. Mais qu'est-ce que ce mot veut dire exactement? Et pourquoi tout le monde en parle? C'est quoi la laïcité? La laïcité, c'est comme une règle qui dit que les lieux publics, comme les écoles, doivent rester neutres par rapport aux religions. Ça veut dire qu'on ne favorise aucune religion, mais qu'on n'en rejette aucune non plus. L'idée, c'est que tout le monde soit traité pareil, peu importe ses croyances. Le ministre Drainville veut agir. Le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drainville, veut une nouvelle loi pour renforcer la laïcité dans les écoles. Voici ce qu'il propose. Interdire aux nouveaux employés de porter des signes religieux visibles comme un voile ou une croix. Ceux qui en portent déjà pourront les garder. Demander aux élèves de respecter certaines valeurs québécoises comme l'égalité entre les filles et les garçons. Ne plus accepter de demandes spéciales liées aux religions dans les écoles publiques. Obliger les élèves et le personnel à avoir le visage découvert dans l'école. Tout le monde n'est pas d'accord. Ce projet de loi a été créé en réaction à l'histoire de l'école de Bedford, dont on t'a déjà parlé ici. Mais beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec cette approche. Ceux qui sont pour la loi disent qu'elle protège les élèves et les aide à penser par eux-mêmes, sans être influencés par les croyances des autres. Ils pensent que ça permettra à tout le monde d'être vraiment égal à l'école. Ceux qui sont contre pensent que cette loi pourrait exclure certaines personnes. Ils croient que la religion d'une personne n'influence pas nécessairement sa manière de travailler ou de traiter les autres. Comment jongler avec plusieurs valeurs à la fois? Le rôle du gouvernement, c'est de trouver un équilibre entre différentes valeurs importantes, comme le respect des croyances de chacun et l'égalité. C'est un peu comme essayer de jongler avec plusieurs balles en même temps. Par exemple, si cette loi fait qu'un service de garde ne peut pas embaucher une nouvelle éducatrice parce qu'elle porte un voile, est-ce que ça aide vraiment les élèves? Ou, si des élèves ne peuvent plus respecter certaines traditions importantes pour eux, est-ce que ça rend vraiment l'école plus accueillante pour tout le monde? D'un autre côté, s'il n'y a pas de règles claires, certains enseignants pourraient refuser d'enseigner des sujets importants comme les sciences ou l'éducation à la sexualité, sous prétexte que cela va à l'encontre de leurs croyances religieuses. C'est ce qui s'était passé à l'école Bedford. Tu vois, ce n'est pas si simple de trouver un équilibre entre le respect des croyances et l'importance de donner la même éducation à tous les élèves. Et toi, qu'en penses-tu? C'est important de réfléchir à ces questions, car elles touchent à nos droits et à nos valeurs. Le débat sur la laïcité à l'école va sûrement continuer pendant longtemps, et c'est normal, car c'est un sujet qui concerne tout le monde. Réfléchir à ces questions permet de construire une école où chacun se sent respecté et peut apprendre dans les meilleures conditions possibles. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'une école où les signes religieux sont visibles peut être un lieu où tout le monde se sent bien? Ou penses-tu qu'il vaut mieux retirer tous les signes religieux à l'école? La Birmanie durement secouée par un tremblement de terre. Un texte de Camille Lopez, paru le 28 mars 2025 dans les As de l'Info. Vendredi 28 mars. Un gros séisme a frappé la Birmanie, un pays d'Asie qu'on appelle aussi le Myanmar. Il y a eu beaucoup de dégâts et on compte actuellement plus de 2056 victimes. Les secousses et la destruction ont aussi touché le pays voisin, la Thaïlande. Voici ce qu'on sait pour l'instant. Deux tremblements de terre. Vers 13 heures vendredi, 28 mars après-midi, un premier séisme a eu lieu près de la ville de Sagaing, en Birmanie. Pour mesurer la puissance d'un tremblement de terre, les experts utilisent un outil qui s'appelle l'échelle de Richter. Elle va de 0, où l'on ne ressent pas le tremblement de terre, à 9, qui peut causer de la destruction sur des milliers de kilomètres. Le séisme survenu en Birmanie s'élève à 7,7 sur l'échelle de Richter. C'est donc très puissant. Il a ensuite été ressenti en Thaïlande. Puis, un deuxième tremblement de terre, un peu moins fort, 6,4 sur l'échelle de Richter, a eu lieu quelques minutes après. Des gros dégâts. Dans les deux pays, la puissance des secousses a causé d'importants dégâts. Des routes ont été détruites. Des bâtiments ont aussi subi de gros dommages. D'autres se sont même effondrés. Des victimes. En Birmanie, des journalistes de l'agence France-Presse ont constaté que des centaines de blessés s'étaient rendus dans des hôpitaux. Toutefois, les médecins ont beaucoup de mal à soigner tous les patients. Il y en a trop, et plusieurs hôpitaux ont eux-mêmes été endommagés. On attend toujours de savoir le nombre exact de victimes. On sait qu'au moins 2056 personnes sont décédées en Birmanie et plusieurs autres en Thaïlande. Des recherches sont en cours présentement pour sauver des personnes prises dans les ruines. Appel à l'aide. Cette catastrophe, c'est du jamais vu en Birmanie. Les autorités ont du mal à gérer la situation, alors elles demandent l'aide des autres pays aussi rapidement que possible. Pour le moment, l'Union européenne, l'Inde et les États-Unis ont offert leur aide. Le savais-tu? Parfois, les humains ont besoin d'aide pour retrouver les victimes d'un tremblement de terre. des scientifiques belges ont recruté des petits travailleurs capables de fouiner dans tous les recoins des décombres. Des rats. Équipés d'un petit sac à dos muni de caméras, de micros et d'un GPS, et avec leur puissant odorat, ils peuvent indiquer l'emplacement des survivants aux secouristes. Un petit mot. Est-ce que cette nouvelle t'inquiète? Ne t'en fais pas. Les séismes aussi destructeurs sont très rares au Canada. Si tu vis ailleurs dans le monde, tu peux demander à un adulte si ce genre d'événement peut se produire près de chez toi. Sache qu'il y a des façons de se protéger si ça survient. Parle-en à tes proches. La meilleure façon de ne pas ressentir trop d'anxiété face à ce type d'événement est de se sentir préparé. Pour ou contre faire la grève? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 31 mars 2025 dans les As de l'Info. Cette semaine, des éducatrices en CPE seront en grève 3 jours. Pourquoi? Elles demandent de meilleures conditions de travail. L'an dernier, c'était les enseignants qui ont fait la grève pendant 22 jours. Quand des employés sont en grève, ils ne travaillent pas et vont manifester. Leur arrêt de travail bouleverse les habitudes de beaucoup de personnes qui comptent sur eux. Faire la grève, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Allons-y avec un pour ou contre. Les pour. Un moyen de se faire entendre. Oui, c'est vrai, les grèves viennent bouleverser la vie et les horaires des gens, mais c'est le but. Les employés arrêtent de travailler pour montrer l'importance du travail qu'ils font. Ça fait parler dans les médias et dans la population. Les grèves fonctionnent. Il y a eu des travailleurs qui ont obtenu des victoires après avoir fait la grève. De meilleurs salaires, plus de vacances, des horaires plus flexibles, etc. Par exemple, depuis la grève de l'an dernier, les enseignants sont mieux payés et ont plus de liberté dans leur organisation. C'est un droit. Faire la grève est un droit pour les travailleurs qui font partie d'un syndicat. Ce n'est pas illégal. C'est permis dans l'entente qu'ils ont avec leur employeur. Bien sûr, on ne peut pas faire la grève pour n'importe quoi, n'importe quand. Avant d'en arriver là, les employés et les patrons doivent tenter de s'entendre en négociant. Les contres? Un gros casse-tête pour les citoyens. Ce sont souvent les citoyens qui sont directement touchés par les grèves, pas les patrons. Par exemple, quand les profs font la grève, ça a un impact immédiat sur les familles. Les parents doivent s'absenter du travail pour garder les enfants qui prennent du retard dans toutes les matières. C'est loin d'être idéal. Ça rend le climat tendu pour négocier. Quand les employés votent pour la grève, c'est que les négociations n'avancent plus avec les patrons. Les échanges sont parfois difficiles. La grève ajoute encore plus de stress et de frustration. Mieux vaut éviter l'escalade et garder la tête froide pour trouver une solution. Ça nuit parfois à l'image des travailleurs. Des grèves longues ou à répétition, ça finit par user la population, même si leurs demandes sont raisonnables. Il arrive parfois que les grévistes perdent l'appui des gens. Trop de grèves peut même donner une mauvaise réputation aux travailleurs syndiqués. Es-tu pour ou contre faire la grève? Il est une fois La bibliothèque entre deux pays, un texte de Frédéric Lavoie paru le 28 mars 2025 dans les As de l'Info. Il est une fois, à notre époque, une bibliothèque située dans deux pays en même temps. Son histoire remonte à il y a plus d'un siècle. À la mort de son mari, Martha, une dame très riche, a fait construire en son honneur un magnifique édifice abritant une bibliothèque et une salle d'opéra. Mais pas n'importe où. directement sur la frontière entre son pays natal, le Canada, et celui de son mari, les États-Unis. En créant ce lieu, elle voulait favoriser les échanges culturels et l'amitié entre les deux pays. Et durant très longtemps, c'est exactement ce qui s'est passé. Peu importe d'où ils arrivaient, les visiteurs entraient par la même porte située aux États-Unis. En parcourant les rayons de livres, ils pouvaient passer d'un côté à l'autre d'une ligne noire sur le plancher qui délimite la frontière. Dans la salle d'opéra, une partie du public était assise aux États-Unis et une autre au Canada, où se trouvait aussi la scène. Mais personne n'était obligé de s'asseoir dans un pays ou dans l'autre. Mais un jour, les États-Unis ont été attaqués par des gens venus de loin. Ils se sont mis à avoir peur d'autres attaques. Et si des ennemis des États-Unis passaient par la bibliothèque pour entrer secrètement dans le pays? Il est alors devenu obligatoire d'apporter son passeport à la bibliothèque. Malgré ce changement, les deux communautés continuaient de se mélanger dans l'harmonie. Puis, un nouveau président a été élu aux États-Unis. Ce président s'est rapidement montré très dur vis-à-vis son ami de longue date, le Canada, sans raison bien claire. Et il s'en est pris à la petite bibliothèque. Son gouvernement a ainsi annoncé que bientôt, aucun Canadien ne sera autorisé à entrer par la porte américaine. Il faudra donc construire une nouvelle porte du côté canadien pour que les membres et les employés de la bibliothèque entrent chacun par leur pays d'origine. Cette décision a rendu beaucoup de gens très tristes. Mais la direction de la bibliothèque a demandé des dons du public pour payer les travaux très coûteux. Et en quelques jours, elle a amassé encore plus d'argent que ce dont elle avait besoin. Comme quoi, il y a encore des gens qui croient en l'harmonie entre les communautés des deux côtés de la frontière. C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.